Quelle joie de vous retrouver pour notre culte ce matin. Quel bon temps de louange nous avons passé. Amen. J'aimerais commencer avec une petite question ce matin. Est-ce que vous savez qu'il y a de nombreuses expressions françaises qui sont tirées de la Bible? Est-ce que vous avez des exemples? Par exemple, oui, c'est vrai. Œil pour œil, dent pour dent. Chaque jour suffit sa peine, j'ai entendu. On récolte ce que l'on sème, oui, c'est vrai. Pleurer comme une madeleine. Je n'ai pas entendu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai, on peut l'entendre aussi. Bon, il y en a pas mal. En fait, on pourrait y chercher longtemps. Hein. J'en ai sélectionné une douzaine, mais c'est très loin d'être tout ce qu'il y a. Il y en a beaucoup, vraiment. Par exemple, moi j'avais écrit « Qui part à la chasse perd sa place ». Et oui, c'est biblique aussi. Œil pour œil, dent pour dent, on l'a déjà cité. Être le bouc émissaire, faire des jérémiades, vieux comme Mathusalem, rendre à César ce qui est à César, tendre l'autre joue, semer la zizanie, une période de vache maigre, déplacer des montagnes, être le Benjamin, hein, Capharnaüm. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Voici quelques exemples. Mais on ne va pas parler de toutes ces expressions ce matin. Il y en a une en particulier sur laquelle j'aimerais que nous nous attardions, que vous avez peut-être déjà entendue. Vous savez, c'est cette expression que l'on dit parfois, « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. » Vous la connaissiez, celle-là? Oui. Eh bien, souvent, les personnes qui l'utilisent oublient une partie de l'histoire, en vrai. Alors, reprenons un petit peu le contexte. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà chanté une partie du contexte il y a quelques instants, donc c'est super. Donc, Jésus a été crucifié le vendredi. Il est mort sur la croix. Il a été mis au tombeau vendredi soir avant que le Shabbat ne commence. Dimanche matin, des femmes qui sont allées au tombeau ont découvert que la pierre qui en bloquait l'entrée avait été déplacée et que le corps de Jésus avait disparu. Et plusieurs personnes, à partir de ce moment-là, on commençait à dire qu'ils avaient vu Jésus vivant. Et toutes ces personnes étaient des personnes proches de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez lesquelles, par exemple ? Marie-Madeleine ? Qui d'autre ? Marie-Madeleine, ça a déjà été dit. Allez, je vous aide un petit peu. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc il y a Marie-Madeleine, effectivement. Il y avait une, selon les évangiles que l'on peut lire, il y a une deuxième Marie qui est avec elle. Donc elles sont deux à l'avoir vue. Il est aussi question de deux disciples sur la route d'Emmaüs. Il est question également de l'apôtre Pierre. D'accord ? Toutes ces personnes ont déclaré que Jésus était vivant avant que Jésus n'apparaisse d'une autre manière. Et arrive alors le dimanche soir. On est dans Jean 20 au chapitre... Jean chapitre 20, pardon, verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Amen. Alors, est-ce que tous les disciples étaient vraiment convaincus que Jésus est vivant ? Effectivement. Tous ceux qui étaient présents, mais il en manquait un. Il manquait Thomas qui était absent. C'est ce qu'on peut lire en fait dans les versets qui suivent. Au verset 24, Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et parfois, on peut se comporter de la même manière quand il s'agit des choses spirituelles. Dans notre société, on est prêt à croire une théorie scientifique sur parole, sans émettre le moindre avis critique. On est même prêt à croire que telle ou telle personne aurait des capacités spéciales, comme trouver une source d'eau, couper le feu, parler aux morts, voir l'avenir. Mais croire que la Bible dit vrai, ah ça, non. Pourtant, la Bible ne contredit pas la science. La science vient au contraire indiquer que la Bible disait vrai depuis déjà plusieurs siècles, plusieurs même milliers d'années. La Bible atteste aussi que les pratiques occultes, eh bien ça existe, et que même ça a certains effets bien réels. Mais la Bible condamne toutes ces pratiques occultes. Et c'est vrai qu'être attentif à la Bible nous enseigne, eh bien, c'est devenu de plus en plus rare, vous l'avez peut-être remarqué. Mais c'est quelque chose aussi qui était annoncé d'avance. La Bible elle-même nous annonce dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est vraie, elle est réelle, elle est vivante. Et de nombreux témoins attestent de cela au cours des siècles. Les témoignages, ils sont nombreux encore aujourd'hui. Ils sont nombreux même dans cette église. La plupart d'entre nous, nous pouvons raconter comment Dieu est intervenu dans nos vies, comment Dieu est venu nous transformer. Et Thomas, eh bien, il a vécu tout ça aussi. Il a passé 3 ans à suivre Jésus dans son ministère. Et les témoins qui lui disent que Jésus est ressuscité sont parmi ceux qui ont voyagé avec lui durant ces 3 années. Ils font partie des personnes qui lui sont les plus proches. Mais c'est comme s'il avait oublié quelques instants tout ce qu'il avait vécu à côté de Jésus. Et c'est vrai que parfois, quand on passe par des épreuves, parce que c'est le cas, Thomas passe par une épreuve. Celui qui croyait être le Messie était mort. C'est une épreuve. Et on a tendance à oublier, quand on passe par ces épreuves, tout ce que Dieu a fait pour nous. On a les yeux fixés sur notre épreuve. Et c'est un peu comme si le reste, des fois, ne comptait pas. Alors oui, bien sûr, on se rappelle que Dieu est là, mais on voit bien que l'épreuve est là aussi. Et pour l'instant, on est bien trop occupé par notre épreuve parce que finalement, cette épreuve, elle est comme plus concrète. L'épreuve, on la voit avec nos yeux, alors que Dieu, ben, on ne le voit pas avec nos yeux. Et c'est aussi ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre, quelque temps avant, lorsqu'il a marché sur l'eau. À un moment donné, il a arrêté de porter ses regards sur Jésus. Et il a commencé à porter ses regards sur la tempête. Et il s'est mis à couler. Mais il a eu ce bon réflexe. Si quelqu'un est dans cette situation aujourd'hui, ayons ce bon réflexe, celui d'appeler Jésus à l'aide quand on commence à couler. Mais revenons à Thomas. Et mettons-nous un instant à sa place. Qu'aurait-il pu se dire ? Mais comment croire qu'un homme est ressuscité ? Comment croire que Jésus est ressuscité ? On n'a jamais vu ça avant, des êtres humains qui ressuscitent. On n'a qu'une vie. Quand on meurt, c'est terminé, on est mort. C'est vrai qu'on pourrait se dire ça, mais ce n'est pas tout à fait juste. En fait, cette situation, Jésus l'avait annoncée déjà. Il avait dit que ça allait se produire. Il le dit à plusieurs reprises, par exemple dans Matthieu chapitre 16, verset 21, dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Ressusciter le troisième jour, c'était annoncé. Et puis, est-ce que vraiment personne n'a jamais ressuscité avant Jésus ? Lazare, par exemple ? La fille de Jaïrus. Mais oui, et il y a même bien avant tout ça. Un peu plus de 8 siècles avant, le prophète Élie et le prophète Élisée ont tous les deux ressuscité un enfant. On peut le lire, hein. Enfin, on ne va pas le lire ensemble, mais vous avez les références à l'écran, dans 1 Roi chapitre 17 et dans 2 Rois chapitre 4. Et effectivement, plus encore, Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, a ressuscité la fille de Jaïrus, et on sait de façon certaine que Thomas a été le témoin lui-même de la résurrection de Lazare. D'ailleurs, ce passage-là, on va le lire. On est dans Jean chapitre 11, verset 38. Jésus se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le aller. » Et malgré tout ça, Thomas arrive encore à dire, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et parfois, on agit de la même manière. On sait tout ce dont Dieu est capable. Et pourtant, nous réclamons encore de voir. Parce que notre monde, c'est vrai, est gouverné par la vue. Et tant que notre vue n'est pas satisfaite, il nous est très difficile de croire quelque chose. Mais lisons la suite. Examinons la réponse que Jésus va faire à Thomas. Il ne la fait pas immédiatement. On est dans Jean chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Amen. Jésus nous indique que chercher à voir, eh bien, c'est de l'incrédulité. Jésus nous encourage, en fait, à croire plutôt qu'à voir. Alors, croire, ça peut se dire aussi avoir la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne une définition très claire de ce qu'est la foi. Je suis sûr que vous connaissez par cœur ce verset. On est dans Hébreux 11, chapitre 1. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. » La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Donc par définition, croire s'oppose à voir. Croire, c'est être sûr, c'est être convaincu, même si on n'a rien vu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à fuir la crédulité. Dans Hébreux 3, verset 12, « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. » Et croire nous permet de passer dans une dimension nouvelle avec le Seigneur. Une dimension qui dépasse tout ce que nous pouvons voir. L'apôtre Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, nous aussi, nous enseignons une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ni de la sagesse des grands de ce monde qui sont destinés à disparaître. Non. Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent, et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais, comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Amen. C'est vrai, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour ne pas rester incrédule. Et le Saint-Esprit, en nous, nous aide à lutter contre le diable qui veut nous rendre aveugles à ces révélations de Dieu. L'apôtre Paul, encore lui, nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le diable à la croix. Il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Et cela concerne autant les aveugles physiques, parce qu'on, c'est ce qu'on peut lire, plusieurs guérisons physiques dans les évangiles, mais il est venu aussi pour guérir les aveugles spirituels. Saul de Tarse, qui s'appelait de cette manière avant de devenir l'apôtre Paul, l'a vécu personnellement. Après sa rencontre avec Jésus, il a quitté son aveuglement spirituel. Il est devenu un témoin mémorable de l'action invisible de Dieu dans les cœurs et dans les vies. Amen. Alors peut-être qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui est incrédule, qui est comme Thomas et qui se montre vraiment, qui s'est montré incrédule. Alors si c'est le cas de quelqu'un ici, ce que je peux dire, c'est que vraiment personne n'est obligé de croire. Vraiment personne. Personne ne subira de pression de la part de Dieu pour croire en lui. À aucun moment il n'est dit que les apôtres ont essayé d'argumenter avec Thomas pour l'obliger à croire. Il n'a pas non plus subi quoi que ce soit pour le contraindre à croire quelque chose qu'il refusait. Dieu est amour. Et Dieu nous aime sans condition. Même si on est incrédule. Voici ce que l'apôtre Paul explique à propos de l'amour de Dieu. C'est une dimension qui nous dépasse. On est dans Romains au chapitre 5 à partir du verset 5. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterions-nous de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la réconciliation. Amen. Et dans son amour, Jésus a laissé du temps à Thomas. 8 jours. 8 jours pour réfléchir à tout ça. réfléchir à ses témoignages. 8 jours pour faire le point. Peut-être qu'il s'est posé un tas de questions à lui-même sans avoir vraiment de réponse à ces questions. La Bible ne nous dit pas ce qu'a fait Thomas pendant 8 jours. Mais au bout de ces 8 jours, il était prêt à déclarer ceci. Dans Jean chapitre 20, verset 28, Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Amen. Thomas a quitté son incrédulité. Et quelque temps après, lorsqu'une nouvelle occasion de voir Jésus s'est présentée, eh bien, Thomas a agi d'une façon tout à fait différente. On peut le lire, c'est la 3e apparition de Jésus, on est dans Jean chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque. » « Et vous trouverez !» Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Amen. Ce passage, assez mystérieux, nous laisse comprendre que Jésus avait une apparence différente. Pourtant, même si leurs yeux auraient pu les conduire à douter qu'il s'agissait de Jésus, tous les disciples présents, y compris Thomas, savaient que c'était Jésus. Au-delà de leurs yeux humains, leur regard a été ouvert par le Saint-Esprit pour voir au-delà des apparences. Ils ne voient pas avec leurs yeux. Il voit avec l'Esprit de Dieu. Lorsque Thomas a déclaré à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus lui a fait cette réponse. On est dans Jean chapitre 20, à la fin du verset 28 et verset 29. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette phrase de Jésus, elle nous rappelle les béatitudes prononcées par Jésus lors du sermon sur la montagne. Les béatitudes, c'est cette série de déclarations que fait Jésus en commençant chaque fois par « heureux ». Et tout ça, on va les lire ensemble, on doit être heureux, mais sur des choses qu'on n'est pas capable de voir. Lisons ça de plus près. Matthieu chapitre 5, verset 3. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. » car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et quand on termine cette série, on pourrait vraiment complètement terminer par cette dernière phrase de Jésus : heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En conclusion, ne croire que ce que l'on voit, c'est nous limiter. La science physique nous montre déjà que notre œil est limité. La portion de lumière que nous sommes capables de voir est toute petite par rapport à tout ce que la lumière est réellement. À l'écran, vous avez toutes ces ondes qui sont invisibles à nos yeux. Et la lumière visible, c'est cette toute petite partie-là. Nos yeux sont vraiment très limités. Et la Bible nous enseigne, comme nous l'avons vu ce matin, que le Saint-Esprit nous révèle des réalités spirituelles qui dépassent de très loin la science physique, qui dépassent de très loin ce que nos yeux sont capables de voir. Dieu est bien plus grand et bien plus puissant que ce que nous sommes capables de voir. Pour le dire autrement, là où nos yeux physiques sont limités, les yeux que nous donne le Saint-Esprit sont illimités. Amen. Juste avant que Jésus ressuscite Lazare, c'est un passage qu'on a lu ensemble tout à l'heure, il a dit ceci à Marthe. On est dans Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit : ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et c'est la déclaration que Jésus fait à chacun d'entre nous ce matin. Que nous soyons chrétiens de longue date, ou que nous mettions peut-être pour la première fois les pieds dans une église, Jésus nous dit à chacun ce matin : ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Amen. Amen. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce message, pour cette parole que tu nous donnes. Seigneur, tu nous montres que ce que nos yeux voient, c'est insuffisant. Que tu nous as donné bien plus, Seigneur éternel. Que par ton esprit, tu nous révèles des choses qui dépassent ce que notre vue peut voir. Tu nous donnes des yeux nouveaux, un regard nouveau, un esprit nouveau, qui nous révèle quelle est ta volonté, qui nous révèle des choses invisibles, qui nous révèle, Seigneur, des choses que nous n'imaginons pas, mais que toi, tu as prévues d'avance pour ton Église, pour chacun d'entre nous, pour chacun de tes disciples, pour chaque personne qui décide de s'attacher à toi, de marcher avec toi. Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour cette révélation de la grâce, que nous pouvons entrer dans ta présence, que nous pouvons avoir cette relation personnelle avec toi, que nous pouvons passer cette vie éternelle à tes côtés. Seigneur, c'est invisible à nos yeux, mais tu nous l'as donné par ton esprit. Tu nous l'as donné par ta révélation. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous révèles encore ce matin. Merci, mon Dieu, pour nos yeux physiques. Merci quand ils sont en bon fonctionnement. Mais Seigneur, bien plus encore, merci pour ces yeux spirituels que tu nous donnes. Et si quelqu'un ici se sent incrédule, Seigneur, que tu puisses te révéler à lui, que tu puisses te révéler dans son cœur, que tu puisses lui montrer, Seigneur, que les yeux, ce n'est pas suffisant, ces yeux humains, et que toi, Seigneur, tu es tout puissant et tu vas bien au-delà. Ah, Seigneur, merci, mon Dieu, pour ta grâce. Seigneur, je veux louer ton nom, je veux le glorifier encore. Merci pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait, Seigneur éternel. Amen.